إلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. طيب. On se rejoint aujourd'hui une fois de plus dans un nouveau cours concernant notre matière. Le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous sommes toujours dans l'explication de notre risala, notre épître, al-wajibat al-mutahattimat. Et nous sommes arrivés au chapitre, les catégories, les genres d'unicité. Les catégories, donc, les genres d'unicité. Et on avait vu dans le cours précédent que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en trois catégories. On avait expliqué la première catégorie qui est l'unicité de la Seigneurie. L'unicité de la Seigneurie, c'est-à-dire, elle a une définition qui permet de comprendre qu'est-ce que c'est que l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Quelles sont les implications, qu'est-ce que ça signifie, etc. On a déjà expliqué que lorsqu'on connaît une définition, ça c'est dans tous les domaines de la science, lorsque l'on connaît une définition, ça aide pour mieux comprendre et cerner la chose. Donc, concernant l'unicité de la Seigneurie, on avait dit At-tawhid al-rububiyya huwa إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. L'unicité de la Seigneurie, on avait dit que c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans la Seigneurie, plutôt d'abord dans la création, dans Al-Mulk, la royauté, et Al-Tadbir, dans l'administration. Alors également, il y a des savants qui vont ajouter la subsistance et d'autres qui disent que c'est compris. La subsistance, c'est compris dedans. Taïb. On a vu ensuite, on avait commencé à expliquer ensuite la deuxième catégorie d'unicité. La deuxième catégorie d'unicité, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la divinité. C'est-à-dire dans l'adoration. L'unicité de la divinité, c'est-à-dire l'adoration d'Allah. L'unicité, pardon, d'Allah dans l'adoration. Alors, pour vous rajouter de la faïda, pour vous rajouter de la faïda, l'unicité de l'adoration, cette deuxième catégorie. Comme vous le savez, cette catégorie, celle pour laquelle on a été créé, celle pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé les messages, celle pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé les messagers. Et pour ceux qui veulent plus d'informations sur le profit, l'importance de l'unicité de l'adoration, vous pouvez revenir à l'audio qu'on a fait. Hein. Comme on vous a dit, on a fait un épître sur le tawhid. Bientôt, on va le sortir, Inch'Allah Ta'ala, en PDF. Bismillah Ta'ala. Et à la suite, ça sera la troisième, si on peut dire, étape. On fera des sur cet épître sur le petit épître sur les po différents points d'importance du tawhid. Il y a 50 points. On essayera de faire des petits épîtres, des petits livres, hein. Des petits livres, un vrai petit livre, une vraie petite risala qui se distribue, Inch'Allah Ta'ala. Ça sera la troisième étape, Inch'Allah. Après le PDF. Donc, on a dit faïda au passage concernant cette deuxième catégorie, l'unicité de l'adoration. Alors, on va employer, comme vous le savez, la méthodologie du question-réponse. Bien que ce soit les vacances, il y a du petit relâchement, il y en a qui sont partis, etc., en vacances, etc. Mais Inch'Allah, au Ta'ala, on continue à faire participer quand même les élèves. Donc, que connaissez-vous concernant les définitions de l'unicité dans l'adoration, l'unicité de la divinité? Est-ce que certains parmi les élèves peuvent nous mentionner des définitions. N'y a pas de souci, nous on va mentionner si vous n'avez pas. Il faut unifier Allah dans son adoration. Ifradullahu bil ibada. Très bonne réponse. Très bien. Très bonne réponse. Très très bien. Ça c'est une définition. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. C'est unifier Allah dans ses adorations, faire les choses. Naham. Naham. C'est également hein, une définition. Assalamu alaikum. C'est unifier Allah dans les adorations, faire les choses uniquement pour Allah, dans son intention, sans rien associer. Naham. Définition d'adoration. Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhullahu wa yarda min al-a'mal wal aqwali wal a'mal batina ou zahira. Naham, ça c'est la définition de l'adoration. Donc c'est très bien, c'est la définition de l'adoration, mais nous on veut la définition de l'unicité dans l'adoration. Barakallahu fikum. Comme j'ai mis en silencieux pour les étudiants, voilà, je vais essayer de remettre ça en. Voilà. Ça devrait aller, Inch'Allah Ta'ala. Cher Papa nous dit. Alors, on a. Cher Papa, l'unicité de l'adoration, c'est en rapport avec les adorateurs. D'accord. C'est en rapport avec les adorés, ceux qui adorent Allah. Naam, barakallahu fikum. Abdallah, c'est le fait d'unifier Allah dans ses adorations, dans ce qu'il aime et il agrée, désavouer ce qu'il déteste et ce qu'il ne veut pas, et faire toutes choses uniquement pour son visage et désavouer les idoles. D'accord. Barakallahu fik, Cheikh Abdallah. Les étudiants, barakallahu fikoum pour votre participation. Taïb, c'est voué exclusivement son adoration à Allah. On a été créé pour cela. Masha'Allah. Alors c'est bien. C'est bien. C'est bien parce que vous avez cerné le sens. Ces définitions ne sont pas forcément précisément celles qu'ont apportées les ulama, mais elles vont dans le sens. Et ça, c'est important. Elles vont dans le sens. Donc, vous avez compris le sens de l'unicité dans l'adoration. Taïb. Alors maintenant, on va citer quelques... Il y a des savants qui disent, et ça a été cité, Ifradullah bil ibada. Ifradullah bil ibada. C'est unifier Allah dans l'adoration. Ça, c'est une définition. Il y a d'autres savants, ils vont vous dire Ifradullah bima yahtasu bih. C'est unifier Allah dans ce qui lui est propre. Il y en a d'autres qui vont vous dire, des savants, et ça c'est la plus, Allahu a'lam, c'est la plus répandue, c'est celle que je vous recommande de retenir. C'est celle que je vous recommande de retenir. Ifradullah bima lahu min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifatihi. C'est le fait d'unifier Allah dans ce qu'il a de seigneurie, de divinité et de naham, de nom et attribut. Ça, c'est la définition du tawhid, hein, du tawhid en général. Après, pour être plus précis, l'unicité de l'adoration de la divinité. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est Ifradullahu bil ibad. C'est unifier Allah dans l'adoration. Définition du tawhid dans son terme général. Ifradullahu bi ma lahu min rububiyatihi wa uluhiyatihi. Ça, si on vous demande la définition du tawhid. Définition du tawhid. En général. Ifradullah bima yahtasu bih. C'est unifier Allah dans ce qui lui est propre. Il y en a d'autres qui disent Ifradullah bil ibada. Et il y a d'autres définitions. Maintenant. Concernant la définition de l'unicité de la divinité, c'est unifier Allah dans son adoration. Ifradullah bil ibada. Ifradullah bil ibada. Tayyib. Ça, c'est de la faïda au passage, mais pour débutants, c'est très important. Les définitions, c'est parmi les premières choses qu'on apprend quand on est débutant. Dans chaque matière, on apprend des définitions qui vont devenir des fondements, des choses importantes. Si vous les ancrez dès le début de votre recherche de la science, dès le début, vous ancrez, vous apprenez les définitions, les règles de base, les fondements, etc. Eh ben, comme le disent les savants, les salafs, lorsque les bases sont bonnes, le reste va suivre. Si les bases sont mauvaises, le reste, il sera mauvais. Wallahu a'lam, ça c'est les paroles des salafs. Également, la règle que vous connaissez maintenant, Men hurrima al-usul, hurrima al-usul. Celui qui s'est privé des fondements, des bases, il s'est privé de, en parabole, hein, de, comme de la ligne d'arrivée. Hein. Il s'est privé de la ligne d'arrivée, c'est-à-dire l'acquisition de ce qui de la science. C'est pour ça que quand on est débutant, on apprend tous les fondements, beaucoup de fondements, des règles, des conditions, des... C'est très important. T'as même? Taïb. Ifradullahi. Donc c'est ifradu Allahi. Allahu a'lam. Bil'ibadati. Pourquoi ifradullahi bil'ibadati? Naham. Bon, c'est vrai, on n'est pas dans un cours d'arabe. Naham. Taïb. Tamam. Donc, notre cheikh, dans notre ouvrage, nous dit explication de al-wajibat, al-mutahattimat. On n'avait pas terminé. Notre explication concernant cette deuxième catégorie, on n'avait pas terminé. Naram, c'est comme ça. Avec une dhamma sur le del, ifradu, ifradu, ifradullahi. Tamam. Afwan. Donc, on est arrivé pratiquement au milieu de notre explication sur la deuxième catégorie d'unicité d'Allah de Tawhid. Rasoul Bu'itha ila ahli al-ard bi amri bit tawhid wa nahi ani shirk huwa Nuh alayhi salam. Donc le cheikh nous dit le premier messager qui a été envoyé aux gens de la terre avec l'ordre de l'unicité et l'interdiction du polythéisme, c'est le messager Nuh. Alors, une petite question encore pour tester un peu les connaissances et puis pour que tout le monde profite. Vous savez que la méthodologie du question-réponse, on a déjà expliqué, c'est la méthodologie des salafs et c'est la méthodologie du prophète. Et qui lui a enseigné ça? C'est Djibril, alayhi salam. Les questions et les réponses, il y a beaucoup de faïda. C'est la méthodologie des salafs. Alors, on le fait pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, incessamment, vous le savez. Mais quand il y a de la faïda, on peut faire profiter les élèves également sous forme de questions-réponses. On sait que Noé, il n'est pas le premier qui a été envoyé. Alors pourquoi Noé, c'est le premier? Naham, alaykoum salam wa rahmatullah. Très bien, oui, Noé, parce qu'il y avait Adam avant. Voilà, car au début, ils étaient sur le tawhid. Car c'est l'époque, au début, car ils étaient... Mashallah, j'arrive même plus à suivre les... j'arrive même plus à suivre. Même chez les étudiants également, j'entends sonner. Alors, je vais aller doucement. Par rapport à Adam, il n'était ni prophète ni messager. Très bien. Très bien. Car au début, ils étaient sur le tawhid. Naham. Entre Adam, Adam... Et Noé, il y a eu 1000 ans, les savants ils disent, il s'est écoulé 1000 ans, ils étaient sur le tawhid. Il y a eu 1000 ans, ils étaient sur le tawhid. N'hésitez pas s'il y a des bruits de fond. S'il y a des bruits de fond, n'hésitez pas à me dire, je pourrais fermer la fenêtre, on entend des bruits de fond des fois. Donc, entre Adam et Noé, pendant 1000 ans, ce que disent les Ashara Qurun, 10 siècles, 1000 ans, ils étaient sur... Ils étaient sur le Tawhid. Donc, il n'y avait pas le polythéisme, il n'y avait pas la divergence, ils étaient Ummatan Wahida, une seule communauté. Et on sait que Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il envoie les messagers, c'est pour, ben, c'est lorsque les gens ils ont dévié, ça y est. Donc c'est à l'époque de Noé que ça a commencé. Alors. chez nos étudiants. On a Shir Papa qui nous dit: car avant lui, tous étaient sur la même famille, le tawhid. Cheikh Abdallah Barakallahu fik, très bien. Comme vous nous aviez dit, avec la parabole de quitter une famille, etc. Masha'Allah. Car avant Noé, il n'y avait pas de messager. Alors, papa, Barakallahu fik, Cheikh Papa. Alors, on reste sur cette base que nous, on dit dans le cours ici, mais sachez, alors ça, c'est faïda pour vous. Avant de répondre aux étudiantes ici, sachez qu'il y a des divergences. Hein. Sachez, donc la manière dont vous avez répondu, c'est la position nous-mêmes que nous avons adoptée selon la position des grands savants, donc il n'y a aucun souci. Hein. Mais sachez que si vous entendez autre chose, ne soyez pas choqués, il y a des divergences. Concernant est-ce que Adam était un prophète ou pas, est-ce que un messager ou pas, est-ce que il y a eu avant lui ou pas, ou etc. Il y a des divergences. Taïb. Donc on nous dit à cause du polythéisme que les gens ont fait avec leur dessein des pieux. Naham, naham, naham. Tout à fait. C'est soit le polythéisme a commencé qu'à l'époque de Noé. Naham. Tout à fait. Mashallah, barakallahu fikum. Mashallah, Allah ybarak. Donc on continue concernant l'unicité de la divinité, c'est-à-dire l'unicité dans l'adoration. Donc on nous dit le premier qui a été envoyé sur les gens, sur la terre, pour ordonner le tawhid et interdire le polythéisme, c'est Nuh alayhi salam. Avant lui, 10 siècles. Avant lui, 10 siècles de Adam jusqu'à Noé, ils étaient sur le Tawhid. Jusqu'à ce qu'est apparu le polythéisme sur le peuple de Noé. Lorsqu'ils ont fait du relou, le relou, comme vous le savez, c'est l'exagération de l'excès sur les vertueux. C'est-à-dire qu'ils ont, rapidement, hein, c'est pas dans l'explication. À fois rapidement, je vous donne le petit détail. Cheikh Al-Fawzan, il explique dans son explication du livre de l'unicité, Kitabu Tawhid, il explique que le shaitan, il est venu leur insuffler, il y a des gens, ils les ont représentés, Naham, c'est exactement ça. Il y a des gens qui étaient des vertueux qui sont morts. Et le shaitan a insufflé à d'autres gens qui les aimaient pour se rappeler d'eux, de faire des représentations, mais pas pour les adorer. Le shaitan, il visait plus loin. Il se dit, eux, on sait qu'ils ne vont pas adorer puisque ils ont quand même un niveau de science. Ils ne vont pas faire du shirk. Mais le shaitan, il visait, c'est ceux qui vont venir plus tard qui vont tomber dans le polythéisme. Et c'est ce qui est arrivé. Et ce fut le premier polythéisme sur la terre. Allahu a'lam. Donc cela a été mentionné dans le Sahih al-Bukhari, rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhu. Et vous pouvez regarder une preuve qu'on nous donne ici, dans Sourate Nuh, verset 23. Sourate Nuh, verset 23. Barakallahu fik, Cheikh Abdelkader. Cheikh Hakim. Cheikh Hakim. Barakallahu fik, Cheikh Hakim. Tamam. قال هذه أسماء الرجال الصالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم ما vous voyez le cheikh il dit exactement ce qu'on était en train de dire أن أنصبوا إلى مجالسهم التي et ils ont dit n'abandonnez jamais vos divinités n'abandonnez jamais واد سوعة بارك الله فيك بارك الله فيك c'est ça c'est le verset Nuh verset 23 بارك الله فيكم ما شاء الله فهذا أول شرك حدث في الأرض c'est le premier polythéisme بارك الله فيكم c'est le premier polythéisme qui s'est produit sur la terre nous disent les savants Donc ici, le cheikh, il nous parle du premier messager qui a été envoyé pour l'unicité d'Allah, le tawhid. Et ensuite, il nous dit, et le dernier des messagers, le sceau des prophètes, et le meilleur, c'est Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est celui qui a cassé les statues de ses vertueux. Il nous dit le cheikh, Mohammed, alayhi salatu wassalam, a cassé les statues les statues hein, qui étaient dans la Kaaba. فكل النبي يبعث إلى قومه يأمرهم بعبادة الله جل وعلا. Tout prophète, donc, est envoyé à son peuple pour ordonner l'adoration d'Allah seul sans associé. Alors ici, encore une petite question. C'est de la faïda pour les étudiants. C'est important. On a déjà parlé de ça. Mais nous, on fait exprès à chaque fois de même si on a déjà parlé de ça, on fait exprès de remettre sur le tas pour que ce soit ancré chez les étudiants. Pourquoi le cheikh ici, il nous dit l'adoration d'Allah. Seul sans associé. Pourquoi il rajoute seul sans associé, on pourrait dire l'adoration d'Allah. Le tawhid, c'est bien l'adoration d'Allah. Pourquoi seul sans associé? C'est important parce que ça permet. Car certains adorent autre qu'Allah. Oui, très bonne réponse. Naham. Car le sens change si on ne met pas seul sans associé. Masha'Allah, très bien aussi. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Car il y a d'autres divinités fausses. Barakallahu fik, Cheikh Hakim. Car les gens de cette époque croyaient en Allah comme. Attention, on a déjà expliqué que le terme Dieu, il faut pas le mettre. Mais il lui donnait des associés. Car les gens de cette époque croyaient en Allah comme. Aïwa, Naham, dans ce contexte peut-être, oui. Dans ce contexte peut-être, Afwan, Cheikh Abdallah. Les gens de Quraysh croyaient que Allah était Allah. Car la shahada porte deux piliers, et si on ne précise pas seul sans associé, on ne remplit pas la négation dans la shahada. Arsène, Cheikh Papa, très bien. Très bien. Mais il donne des associés, et donc ce serait incomplet, donc en rajoutant sans associé, c'est clair. Mashallah, c'est très bien. Mais écoutez, ça fait plaisir. Parce que ce sont vraiment des fondements très importants. On a déjà expliqué que le fait de dire que l'unicité d'Allah dans l'adoration, si on te dit c'est quoi l'unicité d'Allah dans l'adoration, vous allez dans des pays musulmans, et ça c'est les savants qui le disent, hein, allez dans les pays arabophones musulmans et demandez c'est quoi l'unicité de l'adoration. Ou c'est quoi le tawhid? Ils vont vous dire, ou ça veut dire quoi, la ilaha illallah? Ils vont vous dire, c'est adorer Allah. La plupart des gens, c'est ça leur réponse. Et on vous a déjà dit, une fois, nous, on était au Yémen et on a posé la question à une personne dans la ville, comme ça. Et bah, il avait répondu également à côté. Il avait répondu également à côté. Donc la plupart des gens ne connaissent pas ça, et c'est pourtant fondamental dans le sens du tawhid. Parce que si tu dis le tawhid de l'unicité dans l'adoration ou autre, c'est, ou la ilaha illallah, c'est l'adoration d'Allah, toi tu peux répondre, on peut répondre à cette personne, mais. Les associateurs à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, parmi leurs divinités, ils adoraient Allah. Donc, votre conception du tawhid, elle est fausse. C'est d'adorer Allah seul sans associé. Si tu dis adorer Allah, on n'est pas encore dans le tawhid. Hein. Tu n'as pas unifié Allah. Si tu dis que c'est l'adoration d'Allah, tu n'as pas unifié Allah. C'est le tawhid, l'unicité. Pour unifier Allah, il faut dire c'est l'adoration d'Allah seul, sans associé. Wahdahu la sharika la. Et là, ça change tout le sens. Voilà pourquoi on s'est arrêté sur ça et on vous a fait un petit rappel. Si quelqu'un il te dit, vous lui demandez c'est quoi le tawhid, il vous dit c'est adorer Allah, tu lui dis c'est incomplet. Les mouchriquines aussi, ils adorent Allah. Le sorcier, il va à la mosquée. Hein. Il y a des sorciers qui vont à la mosquée. Hein. Les marabouts, tout ça, ils vont à la mosquée. Hein. Est-ce qu'on dit que c'est un mouahid? Est-ce qu'on dit que c'est un monothéiste? Au premier rang, dans quel sens? Oui, dans tous les rangs. Vous savez, peut-être même Allahu A'lam, il y en a, ou Allahu al-Musta'an. Hein. Nous, on avait un cas comme ça dans la ville où j'étais en France avant. C'était toute une polémique. Hein. C'était toute une polémique. Hein. Parce qu'on avait un président de l'association qui était imam, et des frères de confiance témoignaient qu'il faisait de la sorcellerie, il recevait des gens. Je ne savais pas du tout qu'ils allaient prier les sorciers. Il y a des devins, des sorciers qui vont prier à la mosquée. Wallahu a'lam, des marabouts, des. J'ai connu un frère qui me disait que son beau-père, qui était ce genre de personne, il allait normal, il allait à la mosquée normal. C'est parfois juste par ostentation pour être agréé des gens. Oui, c'est possible. Hein. Après. Je ne connais pas le. Mais vous savez, il y a des mouchriquines, des associateurs qui se considèrent comme musulmans. Ça, on le fera dans un ouvrage à la suite de l'unicité, plutôt du livre de l'unicité Kitab Tawahid, qui s'appelle Kashfa Shubuhat, la dissipation ou le dévoilement des ambiguïtés de Cheikh Al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est quoi cet ouvrage? C'est un ouvrage où Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il mentionne les ambiguïtés des associateurs et il réplique. Et parmi ces ambiguïtés, il y en a une, les associateurs, ils disent, nous, alors ceux d'aujourd'hui, hein, les associateurs, les mouchriquines aujourd'hui, ils disent, nous, vous ne pouvez pas nous mettre dans le même sac, c'est une parabole, hein, dans le même sac que les associateurs d'avant, à l'époque du prophète. Parce que nous, aujourd'hui, on dit la ilaha illallah. On va au Hajj, nous. On fait la prière. On fait des sacrifices, des sadaqas, etc. Vous allez, bah tiens, justement, c'est pas pour vous mettre des ambiguïtés, parce qu'on laissera personne partir du cours aujourd'hui sans avoir répondu à cette ambiguïté. Hein. Mais c'est pour ça que les savants disent que Kashfa Shubuhat, faut le faire après Kitab al-Tawhid. Après le livre de l'unicité. Parce que tu ne peux pas prendre ce livre, te manger des ambiguïtés et t'as pas un minimum de tawhid. T'as pas étudié un minimum de tawhid. Alors là, tu vas te retrouver. Ta tête, elle va tourner. Donc vous voyez, c'est pour ça une des raisons, on ne peut pas étudier tout seul. Si on ne connaît pas, faut aller dans des structures, faut avec des gens compétents, etc. On ne peut pas suivre n'importe qui ou n'importe comment. Ça fait maintenant un long moment qu'on est ensemble, vous l'avez bien compris. Vous l'avez bien compris, puisque la plupart ont goûté à l'étude de la science, si on peut, entre parenthèses, hors institut. Puis quand ils voient le changement, la différence dans un institut, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est par étapes, tout est bien organisé. Le ilm, imaginez-vous que la recherche de la science, elle est tirée de quoi? Elle est tirée du wahi. Vous inquiétez pas, j'ai pas oublié de répondre à l'ambiguïté. Hein. Si j'oublie, rappelez-moi-le. Hein. Les sciences religieuses, elles sont tirées du wahi. Le wahi, c'est quoi? Le wahi, c'est la révélation. Vous vous imaginez déjà que les sciences de la dunya, de la vie mondaine, elles sont assez précises et bien organisées, mais alors les sciences de la religion, encore plus. Puisque c'est carrément un wahi, une révélation. Mashallah. Donc voilà. Alors, concernant l'ambiguïté, cette ambiguïté que propagent les associateurs, nous, vous ne pouvez pas nous dire que nous sommes comme les associateurs, qu'on est des mécréants, comme les associateurs les premiers. Qui reconnaissaient pas le tawhid, tout ça et tout. Nous, on dit la ilaha illallah déjà, on fait la prière, on reconnaît, on est des musulmans. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, à cette ambiguïté? Barakallahu fiikum. Vous lui répondez quoi? Il y a plein de manières de répliquer. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui dit, qui fait du polythéisme, je sais pas, de la sorcellerie, de la sorcellerie, etc. Qu'est-ce que vous lui répondez? Il pratique l'islam, mais il fait de la sorcellerie. Non, les Quraysh, les associateurs, à l'époque des Quraysh, ils ne disaient pas ça. Quelle est la preuve que les Quraysh disaient ça? Quelle est la preuve? Les Quraysh. Les associateurs à l'époque des Quraysh, ils n'ont pas accepté de dire la ilaha illallah. Barakallahu fik, ils ont reconnu Allah seulement dans la seigneurie. Les Quraysh, à l'époque du prophète, non, ils n'ont pas reconnu l'unicité de l'adoration, c'est dans le Coran. Ala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard, la yaqulun Allah. Là, ils ont reconnu le tawhid de la seigneurie. Ensuite, on leur a demandé, wa idha qila lahum qulu la ilaha illallah, et lorsqu'on leur demande de dire la ilaha illallah, les premiers, hein, les associateurs à l'époque du prophète, alayhi c'est dans le Coran. Lorsqu'on leur demande de dire la ilaha illallah, ils ont répondu quoi? Ils ont refusé. Ils ont dit, a ja'ala alihatan ilahan wahid. Est-ce qu'il a fait revenir toutes les divinités à une seule? Ils ont refusé de dire la ilaha illallah. Tandis qu'aujourd'hui, les associateurs d'aujourd'hui, eux, même si ce n'est pas forcément concrétisé, eux, ils disent la ilaha illallah. Tayyib. Alors, il y a des réponses, comme j'étais en train de répondre à une question, un commentaire. Ils ont reconnu Allah seulement dans la seigneurie, mashallah. Très bien. L'intention de base, mais également ton association, a peut-être annulé par tes œuvres. Mashallah, Ahsante. Bah, ils ont annulé leur islam en faisant des actes annulatoires. Ils n'ont pas reconnu l'unicité de l'adoration. La ma'bouda bihaqqin illallah. Masha'Allah. Écoutez la réponse. Barakallahu fikum. Écoutez la réponse. Les associateurs, la réponse à l'ambiguïté. Hein. Les associateurs d'aujourd'hui, ils témoignent de la ilaha illallah. Ils font la salat, ils font ce qu'ils veulent. À partir du moment où ils ont contredit, annulé le la ilaha illallah par des actes, par exemple, du polythéisme, sorcellerie, tout ça, hein, vous connaissez, on en parlera, inshallah ta'ala, hein, dans les cours, on va détailler tout ça, inshallah ta'ala. Faire de la sorcellerie, des actes annulatoires. Vous avez vu que dans le chapitre précédent, on a parlé des actes annulatoires. Le polythéisme, c'est le premier acte annulatoire. Donc tu peux dire la ilaha illallah, Si tu fais du polythéisme ou si tu fais de la mécréance, tu annules ton la ilaha illallah. Et comme le dit Allah Ta'ala dans le Coran, et si vous avez associé, il a même dit ça au prophète, et si tu aurais associé, toutes tes œuvres, elles auraient été annulées. Donc leur islam, il est annulé. Vous avez compris, c'est ça qu'on leur répond aux associateurs d'aujourd'hui. Moi, je dis la ilaha illallah. Vous ne pouvez pas dire que je suis un associateur. Mais tu as contredit le la ilaha illallah. Comme nous l'ont mentionné certains étudiants, la négation et l'affirmation. Tu n'as pas fait la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, puisque tu fais du polythéisme. Et on sait bien que pour la sorcellerie, on te demande de faire dégorger pour autre qu'Allah, de faire du polythéisme et de la mécréance. Et toi, tu viens, tu dis la ilaha illallah, alors que tu as une autre divinité qui est le shaitan. Faut dire la vérité, hein? Donc voilà, c'est un petit détail qui est assez important. Au fur et à mesure, à la kouléhal, au fur et à mesure, vous allez apprendre des bases, des fondements dans le tawhid. Très important, hein? Des fondements, des bases qui vont vous permettre de parer à énormément d'ambiguïté, d'avoir énormément de connaissances dans les fondements, dans un premier temps, concernant notre matière ici, le tawhid, ce qui va vous permettre d'avoir du bagage. Que ce soit donc on a déjà expliqué que nous, on ne fait pas de débat, les gens de la sunna ne font pas de débat. Mais si tu te retrouves ou t'as pas le choix, il faut argumenter pour X ou X raisons, ou n'importe quel contexte, eh ben, si tu étudies et que tu connais, tu as des bases, tu pourras répondre. Déjà pour toi-même, pour pas te retrouver avec des wasawis, des insufflations sataniques, des doutes. Shaitan, il passe par là. Des doutes, des waswas, et après tu te retrouves égaré. La connaissance, elle permet, l'ilm du tawhid, justement, elle va te permettre d'être un bouclier et de parer tout ça. C'est très important. On ne sait pas. On a des familles, il y a des gens autour de nous, on peut tomber dans un débat n'importe quand, et si tu connais pas, ben tu vas partir et tu vas rentrer chez toi avec ce qu'on appelle une choubouha, une ambiguïté. Parce que les gens ne se gênent pas, hein. Des fois, il y a des gens, ils n'ont pas forcément une mauvaise intention, mais qui parlent à travers leur langue? Qui parlent à travers leur langue? Tellement des fois ils ont des arguments, ils mettent des ambiguïtés, etc., qu'on voit que ça ne vient pas d'eux. On voit. C'est le shaitan qui lui donne les réponses, qui lui insuffle, qui lui. Eh oui, allez, je ne vous le souhaite pas, mais faites un débat avec un athée, tu te dis, mais d'où il sort toutes ces ambiguïtés? Son cheikh, c'est le shaitan, tout simplement. Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Barakallahu fikum. Encore mieux hein, de nous avoir mis le verset. Barakallahu fikum. Tamam. Alors. في كل سورة من القرآن في القرآن فهي متضمنة لنوع التوحيد. Donc on nous dit, ça c'est pour argumenter, hein. En plus concernant l'unicité de la divinité, le cheikh nous dit que dans toutes les sourates fil Qur'an, il y est compris un des genres d'unicité. Et le cheikh il nous dit, et même dans tous les versets, il y a le tawhid. Tout le Coran, c'est l'unicité d'Allah et sa concrétisation. Ou alors, ça parle du polythéisme, de ses adeptes et de leur rétribution. Afadahu al-allama ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala ma'a irtisar. Regardez ce qu'on nous dit. Ça revient à ce qu'on a mentionné au tout début concernant la définition de l'unicité dans l'adoration. Nahum. Alors, le cheikh nous dit, l'unicité, l'imam Ibn Qayyim, pardon, qu'Allah lui fasse miséricorde, à résumer cela, c'est-à-dire l'unicité de l'adoration, divinité 1, en disant, donc l'imam al-Allama, le savant Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'unicité de la divinité, c'est l'unicité d'Allah. C'est le fait de l'unifier, l'individualiser dans les actes des adorateurs. On nous dit comme l'invocation. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ. On nous dit quoi? Alors là, le cheikh, il commence à nous mentionner pour nous donner des exemples. Donner des exemples. Exemples qui concernent l'unicité dans l'adoration. C'est de prendre une adoration et de la vouer à Allah seul sans associé. Ça, c'est à titre individuel concernant les adorations. Mais en réalité, c'est que toute adoration doit être voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le sens de l'unicité dans l'adoration. Tu dois vouer toutes les adorations uniquement à Allah seul. Alors ici, on nous donne des exemples d'adoration, mais ce n'est pas à titre restreint. Ça veut dire qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est à titre d'exemple. Les adorations, elles sont nombreuses. Mais à titre d'exemple, pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'une adoration, la première, le cheikh nous parle de l'invocation. La deuxième, il nous parle du vœu. La troisième, il nous mentionne le sacrifice. En quatrième, il nous mentionne al-raja, l'espérance. Ensuite, le khawf, la peur. Al-tawakkul, la confiance. Al-rahba, wal-rahba, wal-khushur. La peur intense, l'affliction, l'aspiration et la crainte. Et le cheikh nous les mentionne avec toutes les preuves, hein, toutes les preuves du Coran pour chacune. Donc ça, vous inquiétez pas, dans l'explication des trois fondements, on va étudier déjà ces invocations, mais énormes, mais également d'autres invocations. Alors maintenant, également à titre Naham Sheikh Abdullah, Naham Sheikh Abdullah, Tfaddara, vas-y, tu peux y aller. Hayyak Allah, Sheikh Abdullah, Mashallah, Wafik Barak Allah. Tamam. Donc maintenant, pour clôturer notre cours, hein, on aurait une question. Qu'on a déjà évoqué. Hein. Comment on peut reconnaître une adoration? On nous dit qu'on doit vouer toutes les adorations à Allah, seul, sans associé. Comment on fait pour reconnaître une adoration? Amour, mashallah. Amour, déjà on sait que Allah, c'est quelque chose qu'Allah, il aime. Allah, il ordonne et aime. S'il y a une preuve du Coran et de la Sunna, naham, très bien. Humilité, naham, qui est un pilier de l'adoration. C'est très bien. Rappelez-vous déjà la définition de l'adoration qui a été mentionnée aujourd'hui. Hein. Trois piliers, amour, crainte et espoir. Mashallah. Mashallah. Déjà, très bien. On reconnaît une adoration. Il faut qu'on sache que Allah l'aime ou qu'il nous l'ordonne. Mashallah. Déjà. Trois ou quatre. Naham. Ça dépend en fonction des savants. Trois, quatre. Ça dépend en fonction des savants. Il y en a qui vont rajouter l'humilité. Az-zul. Az-zul. Lorsque le prophète as-salam l'a agréé dans sa description physique, etc., ou lorsqu'il l'a approuvé oui. Oui, ça peut être une forme pour reconnaître une adoration. Il faut qu'elle ait été mentionnée par le prophète, aïssatou salam. Naham. Comment traduire el-khushur en français? Il y en a, ils vont traduire concentration, il y en a, ils vont traduire crainte. De rien. Vous regardez dans l'explication si vous avez des trois fondements. Comment ils ont traduit Khushur, vous allez voir. Tayyib. Naham. Donc, pour reconnaître une adoration, hein, on a déjà parlé de ça. C'est pour ça que c'est important d'apprendre la définition, de connaître hein, la définition de l'adoration. C'est également quelque chose qu'Allah agrée. C'est quelque chose que Allah aime. C'est quelque chose que Allah ordonne. C'est quelque chose qui est mentionné dans les textes. L'adoration est un terme qui comprend tous les actes et paroles apparents ou cachés qu'Allah aime et agrée, définition d'adoration. Très bien, mashallah. De qui cette définition est-elle? Mashallah, très bien, c'est ça. Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah, barakallahu fikoum. N'oubliez jamais les sources. C'est important. Et c'est même pour vous hein, que vous l'ayez en tête parce que un jour, vous allez parler ou discuter comme ça. Définition de l'adoration, on va vous dire c'est qui, c'est quoi. Hop, c'est Cheikh Al-Islam bin Taymiyyah. Tayyib, Ismu jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal-a'mal al-zahira wal-batina. Eh bien, écoutez, ce cours touche à sa fin et franchement, Allah Ibarak, depuis, si vous avez remarqué, depuis 2 jours, je fais des petits questions, réponses, etc. Et on est, Allah Ibarak, on est satisfait des étudiants. Wafikum barakallah. Oui, ça aide. C'est la méthodologie des salafs, hein. De rien. À vous aussi. C'est la méthodologie des salafs. Ça marchait comme ça dans l'Institut de Cheikh Mokbel. Hein. Ça marchait comme ça. Sauf que les questions sont très utiles et rendent le concours encore plus attractif. Mashallah. Mashallah. Comme vous le savez, hein, dans les bulletins, il y aura la participation. Hein. Que voulais-je dire? À l'Institut de Cheikh Mokbel, rahimahullah, c'était encore plus, on va pas dire stressant, mais là, c'était face à face. Hein. Vous aviez les ulama, les chuyours, l'enseignant qui fait son cours, t'es assis en face de lui et dit, toi. Par exemple, bon, à force, après, il connaît les noms. Hein. Abdelkarim. Quelle est la définition de ça? Cite-moi le verset de ça, etc. Voilà, t'as appris ton cours ou t'as pas appris ton cours. Du moins, tu connais ton cours ou tu ne le connais pas. Et il y a d'autres qui ne visent pas une personne. Toi, réponds à la question, mais plutôt qui posent une question et puis voilà, c'est les gens répondent. Ils visent pas une personne particulière, hein, ils désignent pas de personne. Mais on a eu des chouyours devant 5 000 personnes à l'Institut de Cheikh Mokbel. Mashallah. On a eu à l'Institut de Cheikh Mokbel des fois des chouyours avec des 5 000 personnes comme étudiants. Et dans la foule, et ça m'est arrivé à peu près 3-4 fois, dans la foule, il te prend comme ça, il te dit, toi, là-bas, à côté du poteau, l'Algérien français, comme ça il m'appelait, El Djazairi Francis, lève-toi. Masha'Allah, subhanallah, ben, j'ai jamais vu, subhanallah, j'écoute. Barakallahu fikoum, c'est une bonne faïda. Toi, lève-toi, Cheikh Al-Uthaymine, il faisait ça aussi. Et il te pose une question, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Est-ce que c'est authentique, c'est pas authentique, cite-moi la. Donc vous voyez, c'est la méthodologie des gens de la Sunna. Alors, il est possible, on peut avoir, franchement, il n'y a pas de honte à avoir. Hein. Si on est là pour apprendre, etc., bien sûr, il y a une certaine, un certain comportement, etc., mais tout est fait de sorte qu'il n'y a aucun problème, hein. De sorte qu'il n'y a aucun souci. Voilà, tout est bien organisé. Celui qui veut participer, il peut participer. Celui qui veut participer indirectement, il est un peu plus timide. Moi, déjà, je suis comme ça, très, très timide, etc. Donc, il peut passer par les admins. Il peut passer par les admins, celui qui est timide ou autre. Il n'y a aucun souci. Celui qui veut passer par le chat, par les groupes, c'est comme vous voulez, ou par l'admin, côté frère, côté étudiant, côté étudiante. Il n'y a pas de souci. Il y en a pour tout le monde. On a déjà expliqué. Celui qui veut suivre les cours, c'est juste pour rester dans le rappel avec nous. Il veut rester marhaban. Celui qui veut devenir, qui veut suivre tout le processus en faisant les contrôles, en faisant marhaban, très bien. Ça veut dire celui qui veut devenir un étudiant. C'est la deuxième étape. Et la troisième étape, celui qui veut devenir un prêcheur. Ou une prêcheuse, il n'y a aucun souci aussi, il y en aura pour lui. Il y en aura pour lui ou elle. Il n'y a pas de souci, on en donne pour. On est là pour tout le monde. On ne va pas dire à quelqu'un qui veut s'inscrire à l'institut, non, c'est que pour des étudiants. Quelqu'un qui voudrait rester dans le rappel, s'asseoir, écouter, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas la capacité pour faire des contrôles, je ne sais pas. Il n'y a pas de souci. Et c'était comme ça dans l'Institut de Cheikh Mokbel. Vous savez qu'il y a des gens, ils venaient juste pour s'asseoir avec les savants. Voilà, moi je m'assieds avec les savants, j'écoute. Il y avait des gens comme ça. Donc voilà, il y a une méthodologie chez les gens de la Sunna. Et le fait de. On a posé la dernière question, j'avais une dernière question. Il me semble que je l'ai posée, vous avez répondu. Hein. Non, donc c'est fini les questions. Donc, notre cours touche à sa fin. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allahu Ta'ala, pour la suite des cours. Barakallahu fikum. Si vous avez des questions, wa fikum barakallah, n'hésitez pas. Juste j'ai oublié hier. J'ai oublié hier, juste pour que les choses soient claires, j'y ai pensé après. Hier, on a parlé, on a fait presque 1 heure et demie sur le virus, ce qui se passe, les fatwas des ulama. Je vous ai juste donné la position personnelle du Haoustèd. Hein. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il y a une autre position. Vous savez qu'il y a une divergence sur ça. Il y a des gens. La communauté, elle est divisée en deux. D'ailleurs, le monde entier est divisé en deux sur l'histoire des vaccins, etc. Et si vous remarquez, il y a une partie, il y a les savants qui disent, attention, ils n'ont pas dit que c'était obligatoire de faire le vaccin, les savants. Ils ont dit, nous conseillons, nous recommandons. Ils n'ont pas dit, c'est obligatoire, tu dois le faire, c'est haram de ne pas le faire. Ils n'ont pas dit ça. Mais nous, on a donné notre position, mais attention, celui qui a une autre position, on la respecte, il a le droit, il a lui aussi ses preuves. Hein. Il a lui aussi des preuves. Nous, on a des preuves. On est réticent, on n'a pas confiance, etc. On a beaucoup de preuves, mais j'ai fait des recherches et c'est vrai qu'également, de l'autre côté, on peut être convaincu. Il y a des gens qui ont droit d'être convaincus également. Donc, les deux positions, on les respecte. Faut pas prendre ça dans le sens on a une position et on l'impose et c'est comme ça et c'est la guerre. Non. Nous, on a juste. Vous savez que moi, autour de moi, dans ma propre famille, il y a des gens. Moi, je ne suis pas pour le vaccin, etc. Et il y a des gens qui ne sont pas de cet avis. Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de guerre. Hein. J'ai vu une fois un commentaire sur les réseaux sociaux où il y a des gens au sein de la famille, c'est devenu insupportable, c'est la guerre. C'est devenu insupportable, c'est la guerre. Non, il faut pas que ce soit une source de. Après, quand c'est au sein de la famille, c'est un peu difficile si chacun a un avis différent. Ça devient un peu difficile, mais il faut essayer de se concerter. Mais il faut surtout pas imposer les choses. Voilà, c'était juste pour éclaircir les 1 heure et demie qu'on a fait hier. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, si c'était clair. Je n'impose rien. Si quelqu'un il n'est pas d'accord, je le respecte. C'est son droit. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas non plus. Je suis pas médecin, moi, je suis pas professeur. Hein. Je ne suis pas médecin, je suis pas professeur. Donc, quelqu'un a le droit de dire le haoustez. Moi, je sais que dans l'ilm, je le suis parce que c'est son domaine et il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un a le droit de penser. Dans les histoires de vaccins, de virus, le haoustez, ce n'est pas le professeur. Le grand professeur, prix Nobel, etc. C'est une vérité. C'est une vérité. Mais des fois, Allah, subhanahu wa ta'ala, il donne une clairvoyance à certains. Vous savez moi, j'ai fait istikhara. Hein. J'ai fait istikhara. Hein. On a fait istikhara. Et d'ailleurs, je conseille à tous les élèves, leur famille, leur entourage, faites istikhara. Il n'y a pas mieux que de demander à Allah dans n'importe quelle de vos situations. On est dans le tawhid, un cours de tawhid. Hein. Il faut demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans toutes vos situations. Demandez à Allah. C'est mieux que de demander aux humains. On est bien d'accord. Mais rien n'empêche que c'est quoi la sunna? C'est quand tu as demandé à Allah, subhanahu wa ta'ala, on appelle ça l'invocation de, ou la prière de consultation. Salat, au dua, al-istikhara. Tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais après, la sunna, c'est quoi? Wafikum barakallah. De rien. La sunna, après, c'est quoi? C'est que après l'istikhara, tu fasses mouchawara. Mouchawara, c'est quoi? Tu dois demander, concerter des musulmans de confiance, des gens autour de toi que tu estimes de confiance, leur demander leur avis. Ça s'appelle la consultation. Donc voilà, on vous remercie pour votre présence et votre participation. Wa hayyakumullah, qu'Allah préserve tous nos élèves et qu'Allah guérisse ceux qui sont malades. Amin. Wa subhanakallahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.